au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Bon lundi à tous. On aura une entrevue avec la directrice générale du cégep de Lanaudière. Par la suite, on fera écouter sa brasse du côté de Sainte-Élisabeth. Il y a une assemblée spéciale ce soir qui sera virtuelle. On ne veut pas voir les citoyens, ça a l'air. Parce qu'on en parlera avec un citoyen de Sainte-Élisabeth, Marc Longchamp. Et j'aurai également quelques extraits sonores à vous faire entendre de la dernière Assemblée générale spéciale extraordinaire qui a eu lieu le 4 juin dernier. On parlera au chef Sibi Flamand. On parlera de la rivière Moisy avec lui, puisqu'il y a eu une intervention de la part des Inuits de ce côté-là ce week-end. Et on terminera, on aura bien sûr le commentaire de Pierre Paquette sur le G7. C'est mon G8 à moi, Pierre Paquette, c'est le 8e. Et ensuite, Patrick Massé, le préfet de la MRC Montcalm. Bonne émission, mesdames, messieurs.
Lanaudière PM, éducation.
Bien, il semble que le cégep de Lanaudière soit mieux positionné que plusieurs autres pour faire face aux nouvelles compressions imposées par Québec. Il y a des établissements qui devront d'ailleurs se départir de professionnels qui offrent des services directs aux étudiants. Un entretien de François Morin avec la directrice générale Geneviève Perrault.
C'est pas la première fois qu'on se parle des compressions avec lesquelles les collèges doivent composer. Et là, on apprenait ces jours derniers qu'on devra sabrer cette fois dans du personnel qui offre des services directement aux étudiants. On parle entre autres de psychologues, d'intervenants sociaux. Ça commence à être difficile, là.
Oui, en fait, dans le réseau, là, c'est ce qu'on a vu dans les médias reflète quand même, je vous dirais, des situations assez différentes d'un cégep à l'autre au Québec, là. De notre côté, c'est sûr que la situation financière et je dirais la structure de notre cégep régional nous aide un peu. Je vais être honnête, de notre côté, en dépit des coupures de postes là, qu'on doit faire actuellement, on parle de 13 postes ou projets spécifiques là, qui seront abolis. Il n'y a aucun service direct à l'élève. Donc, nous, on a réussi à maintenir, en fait, le cap. Ça a été dans les principes directeurs, quand on a regardé l'ensemble du budget en équipe, de maintenir notre mission première, maintenir le plus possible les services à l'élève et, je vous dirais, la diversité d'expertise dans les équipes, qu'on a eu une vision assez globale, de sorte qu'on a fait des coupures dans d'autres postes. Puis on a dû revoir, par exemple, certains projets. On va minimiser, par exemple, certains projets, même au niveau étudiant, mais en ne coupant pas minimalement les services. Fait qu'on restreint plus que couper parce qu'on a une bonne posture financière, alors que d'autres cégeps au Québec avaient pas de coussin, on va dire ça comme ça. Puis eux se retrouvaient dans des positions vraiment délicates.
Ça veut dire donc qu'il y a certains postes qui étaient peut-être affichés, je ne sais pas, de votre côté, qui ne seront tout simplement pas comblés et on maintient les effectifs actuels.
Oui, on va avoir quand même quelques postes qui seront affichés à l'interne parce qu'on a des postes directement à l'élève, justement, des projets spécifiques qu'on avait mis de l'avant, qu'on va reconduire. On les a maintenus. Mais effectivement, là, on est en gel de recrutement, de toute façon. Fait que c'est sûr qu'il y a des postes qu'on peut pas afficher, mais je vous dirais qu'on n'est pas dans une situation criante comme d'autres cégeps peuvent l'être actuellement. C'est sûr que ça représente pour le cégep de Lanaudière une coupure au budget de 4,1 millions, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte. Mais comme je vous dis, on a fait un travail, on a serré, entre autres, on a coupé tous nos budgets. Ben, on a vraiment coupé plusieurs budgets au niveau des communications, des budgets de déplacement, des budgets. On a revu certains l'ampleur de certains projets. On a un peu réorganisé. Donc, il y a des postes qui étaient vacants, puis que donc on ne dotera pas du tout. Mais somme toute, notre objectif, c'est de passer le cap. Puis puis d'être capable de maintenir nos équipes en place. On est quand même inquiet que le gel de recrutement, de ce que ça peut donner si jamais il y a des gens qui quittent pour X raisons. Là, fait qu'on veut s'assurer de ne pas épuiser nos équipes puis de pouvoir continuer à faire notre mission première dans un contexte où on a une augmentation de 6,8 % si ma mémoire est bonne dans tout le cégep de la Naudière, donc d'étudiants et d'étudiantes, ce qui est énorme, jamais vu pour nous.
Bon, justement, là, je m'en allais là au niveau de l'augmentation de la clientèle étudiante. Il y en a été question tout récemment, justement, dans le cadre des parcours scolaires, et on se rend compte que, compte tenu justement qu'on est pratiquement à pleine capacité partout, les jeunes sont peut-être sont souvent tentés d'aller étudier à l'extérieur, mais de ne pas revenir dans la région. Ça aussi, c'est un élément à prendre en considération.
Tout à fait. Je vous dirais que de ce côté-là, on continue à travailler fort, à mobiliser et essayer de convaincre notre gouvernement de maintenir les projets qui étaient en place au niveau des agrandissements puis des infrastructures. Donc, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer, mais je continue à travailler très fort. On assiste aussi à de nouveaux phénomènes, c'est que les jeunes, certains veulent pas quitter, donc préfèrent changer de programme d'études, tester un autre programme s'ils ont été refusés dans un programme qu'ils choisissaient, qu'ils souhaitaient. Mais ça, on sait, au niveau de la persévérance puis de la réussite, ça n'a pas nécessairement de bons résultats. Donc, nous, l'objectif est de favoriser l'accessibilité le plus possible et on va travailler fort. On va développer cette année, on va essayer de trouver des solutions, sortir un peu de la boîte là, pour minimalement faire un bout. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'espace, là.
Eh bien, le yab est au vache, comme dirait l'autre, à Sainte-Élisabeth. On a décrété l'état d'urgence. Après Sainte-Mélanie, c'est maintenant Sainte-Élisabeth qui fait parler d'elle un peu partout. Vous allez vous en rendre compte dans un instant, tout juste de l'autre côté des publicités.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
CFNJ, avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
Pis Simon, ta pub Royal Lepage?
J'hésite en te parler de la protection royale que j'offre à mes clients acheteurs et vendeurs ou utiliser un verre d'oreille comme
Simon Messier, courtier immobilier résidentiel
et commercial.
Non, pas ça.
Ah, 450-803-9871. Royal Lepage partenaire, agence immobilière.
La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm saura répondre à tous vos besoins dans le plus grand respect pour vos préarrangements funéraires. La coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm avec flexibilité et bienveillance. 450-886-3763 et 450-839-3450.
La Grande Bringue débarque au Festival Bastringue. Les 26 et 27 juin, le Monastère vous convie à un cabaret de cirque explosif sous le chapiteau. Au programme, jonglerie, équilibre, numéro aérien et surprise, le tout guidé par un maître de cérémonie aussi espiègle qu'ensorcelant. Pour un public averti, 14 ans et plus. Billets en vente sur www.spectaclejoliette.com.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Donat, Saint-Charles-Borromée, Saint-Lin-Laurentide, Mandeville.
CFNJ 99.1-88.9.
Des chansons américaines, on n'en joue pas parce que chaque petit geste est important.
La Naudière PM, politique municipale.
Eh bien, ça brasse du côté de Sainte-Élisabeth. La tension est palpable entre le conseil municipal et les citoyens, et à tel point que le maire, M. Bérard, André Bérard, de son nom, a mis la municipalité en état d'urgence, puisqu'il peut le faire maintenant avec les nouvelles dispositions de la loi. Et il y a des opposants qui voient dans cette déclaration d'état d'urgence une déclaration de dictature. On va écouter, si vous voulez bien, un petit extrait là, de la séance du 4 juin dernier.
Quiconque prend la parole sans avoir obtenu l'autorisation du président est passible d'une amende de 100 $ après avoir reçu un seul et unique avertissement. Quelqu'un qui est récidive peut également être invité à quitter la salle.
Bon, ça, c'est dans les nouvelles dispositions de la loi, mais ça fait mal quand même. Hein? Si vous parlez un peu trop fort, puis on vous avertit, ben c'est 100 $ d'amende. Et puis si vous continuez, ben on vous sac dehors, comme dirait l'autre. Alors, c'est pas jojo. Il y a même 3 des employés de la municipalité qui ont été blessés par des citoyens lors de la dernière séance extraordinaire du Conseil, toujours celle du 4 juin. Et écoutez bien ceci.
S'il
vous plaît, taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous.
Non, on taisera
pas. Taisez-vous, s'il vous plaît.
On vous demande le nom de l'employé qui
est... On donne toujours le numéro de l'employé.
Non,
on ne donne pas le nom de l'employé quand on fait une cessation d'emploi. Je vous demande de vous taire, s'il vous plaît. Je vous demande de vous taire, s'il vous plaît.
Taisez-vous, dit-il. Alors, depuis au moins 2023, chacune des séances du Conseil, est houleuse et plus houleuse que la précédente. Plusieurs citoyens dénoncent un manque de transparence puis une gestion un peu douteuse des fonds publics. Faut mentionner que la municipalité n'a rendu public aucun état financier depuis 2023. Ça, c'est 2023, 2024, 2025, ça fait 3 ans. Les citoyens n'ont aucune idée vers où s'en vont les états financiers puis les budgets. Ils sont découragés parce que M. Bérard ne répond jamais aux questions, disent-ils. Quasiment personne n'assiste aux conseils municipaux avant, mais maintenant, il y a entre 50 et 60 personnes qui se présentent à chaque séance. Et la déclaration d'urgence fait en sorte que la séance de ce soir, qui devait avoir lieu devant les citoyens, ben elle sera faite en virtuel. Et ça, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas comment se brancher, pas parce qu'il y a de mauvaise volonté, parce qu'ils savent pas. C'est pas donné à tout le monde d'être bon sur Internet. Et là, il y a une opération présentement qui se passe. On essaie de montrer aux gens comment se brancher, parce que les gens sont concernés de plus en plus. Écoutez, il y a la Commission municipale du Québec qui a nommé un observateur dans le dossier, et ça serait peut-être pas surprenant qu'on se rende là, jusqu'à la demi-sous tutelle de la municipalité. Je sais que ça en prend beaucoup à la CMQ pour mettre une municipalité sous tutelle. Il y en a des questions pour Sainte-Mélanie également. On va écouter un dernier extrait, si vous le voulez bien.
Est-ce que ça serait pour acheter son silence, M. Bérard? Est-ce que ça serait pour trouver un coupable à vos fautes?
Alors, j'imagine que si
ça
vous
pas
allez,
non plus.
J'imagine que si vous allez sur le site internet de la municipalité, vous pourrez avoir une façon de vous brancher à la séance de ce soir. En tout cas, du moins, je vous le souhaite. On va tenter de notre côté de vous mettre le modus operandi afin de vous brancher sur la séance de ce soir. Par ailleurs, il y a Marc Longchamp, qui est un citoyen Sainte-Élisabeth, qui depuis 2003 suit régulièrement les séances du conseil municipal, et dans une entrevue accordée à Pierre Jubinville, il n'en revient pas du manque de transparence du maire.
Alors, vous avez assisté à ces réunions du conseil un peu houleuses?
C'est-à-dire, moi, j'y assistais par rediffusion, parce que j'y ai déjà assisté dans le passé, mais voyant la façon dont le déroulement des assemblées, la présidence d'assemblée, comment est-ce que c'était problématique, j'ai jugé bon, meilleur pour ma santé mentale de me retirer en présentiel lors de ces séances-là, parce que l'attitude qui se déroulait au niveau de la présidence d'assemblée était tellement méprisante et tellement désagréable que j'ai préféré me retirer plutôt que me faire exposer dans des situations, des commentaires que je souhaitais pas entendre de la part de notre maire.
Dites-nous donc justement, donnez-nous donc des exemples de comment ça se passait dans votre
conseil. Il y a eu plusieurs événements qui se sont déroulés, mais pour prendre le point de départ, si on regarde toute la problématique grave qui a été rencontrée au niveau des états financiers. Hein, chaque municipalité au Québec, là, je pense que c'est 88% des municipalités au Québec, produisent des états financiers. Hein, ce que ça dit en gros, c'est ben ça fait dire ben vous aviez prévu telle dépense, vous aviez tant dans votre compte, puis ben là, ça donne tel résultat. Ça se faisait année après année. Il y a eu l'embauche d'un directeur général qui puis à l'embauche, qui a été remercié. On a appris ça récemment. Et là, on a vu apparaître un paquet de problématiques. On peut pas associer directement les problématiques rencontrées à un seul individu, à mon avis. On n'a pas l'information là-dessus. Il faut y aller avec beaucoup de précautions. Néanmoins, on s'est retrouvé avec, autour du mois d'avril, juin 2024, habituellement, c'est le moment où les municipalités remettent leurs états financiers à la population. Ce qu'on a appris en 2024, c'est, ben là, non, il y a des complications, mais inquiétez-vous pas, tout va bien, on sait comment dépenser, on gère bien la municipalité. Ça a persisté. Et là, les gens, naturellement, lors des séances du conseil, ben posaient des questions. Et le maire rentrait dans son flou poétique, là, il sortait toutes sortes d'affaires, on va vous revenir là-dessus, on prend note, c'est votre opinion. Bref, c'était vraiment une espèce de cascade d'évitement à tout bout de champ par rapport à ce dossier-là, notamment. Alors ensuite, il y a eu un audit de performance qui était commandé afin de connaître un peu ce qui en était. Le 24-26 novembre, ça a été déposé, c'était très accablant comme rapport. Je ne pourrais pas le résumer, mais il est accessible d'ailleurs sur le site du ministère. Mais on sait qu'à trois reprises, il est mentionné dans le rapport que les modes de gestion de la municipalité posaient problème en termes de transparence, en termes d'accessibilité d'accès et pour la population et pour les conseillers. On sait également qu'il y avait ça a été souligné à trois reprises, qu'il y avait des dangers de malversation, de fraude potentielle, étant donné les méthodes de gestion qui étaient déficientes. Ça ne dit pas qu'il y a eu ces éléments-là, mais ce que ça disait, c'est que la façon dont c'était géré, c'était fort problématique et ça pouvait entraîner des risques de... Donc, il n'y a pas eu de dénonciation de cet ordre-là, mais la façon dont c'était fait, ça pouvait on pouvait se retrouver dans des situations où potentiellement ces choses-là auraient pu se produire.
Oui,
on n'a pas eu de suivi là-dessus, naturellement, parce que là, ça prend une expertise de jury comptable, chose qu'on n'a pas comme citoyen.
Mais le doute était semé.
Ben, c'est-à-dire que c'est quand même une haute fonctionnaire là, réputée qui a fait ce travail-là. On pense que ces gens-là font leur travail sérieusement. Faut qu'on a tendance à écouter puis à lire ces gens-là avec attention. On sait que suite à ça, les états financiers donc n'ont toujours pas été déposés à ce jour. On sait que par la suite, le maire a pris l'initiative de dire bon, on va trouver une firme comptable pour faire les états financiers. Le problème qu'on a eu, c'est que la firme comptable, ils ont dit, écoutez, on peut pas faire vos états financiers car votre tenue de livre est tellement déficiente qu'on ne peut pas faire d'état financier parce que votre tenue de livre est ingérable avec ça. Là, ce qu'on a appris par la suite, c'est que on va demander à une firme comptable de faire la tenue de livre et on va demander à une autre firme comptable ensuite, qui est Scott Thornton, quand même une firme comptable assez réputée mondialement à Montréal, qui, elle, va faire les états financiers une fois que ça va être fait.
Dites-moi, allez-y.
Ben, c'est ça. Au moment où je vous parle, on n'a aucune information à savoir ce qui se passe avec nos états financiers. Il y a des échos qui circulent à l'effet que... La firme comptable est pas capable d'avancer au niveau de la tenue de livre. Et ça date à partir de mai 2024, je crois, qui coïncide avec le départ d'une ancienne personne qui faisait la tenue de livre. À ce moment-là, tout était correct, mais c'est à partir de ce moment-là que tout semble être problématique.
Est-ce qu'on sait pourquoi cette personne a quitté?
Faudrait lui demander. Je pense qu'elle a pris la décision d'aller relever des défis ailleurs. Pour quelle raison, ça, je peux pas me prononcer. J'oserais pas non plus parler à sa place là-dessus. Ça serait manquer d'égard envers les gens. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a quitté pour un autre emploi ailleurs. Elle a décidé d'aller relever des défis ailleurs.
La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a déclaré cet après-midi dans un communiqué qu'elle songeait sérieusement à mettre la municipalité sous tutelle. Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous?
Impérativement, dans l'intérêt de tous et de toutes. Et là, j'inclus là-dedans les conseillers, peu importe où ils logent là sur l'échiquier politique au niveau des clivages qu'il peut y avoir. Au niveau du maire, je pense que, à mon avis, à moi, ça, je pense qu'il y en a assez fait, au sens propre et figuré du terme. On laisse pas les citoyens juger là, puis la ministre de juger de la valeur de ça. Mais moi, je pense que les choses sont rendues à un point où ça prend véritablement une tutelle pour le bien-être de tous, puis surtout calmer le jeu. Ben le problème qu'on a, c'est que ce qu'on sait présentement, c'est qu'on sait rien à part sur le site de la municipalité. Ça dit d'une part, il y a des liens Zoom, arrangez-vous avec ça, débrouillez-vous. On n'a pas vu qu'il y avait une diffusion de prévue sur Facebook où tout le monde peut y avoir accès aisément, ni de location d'une salle ou d'installation d'une salle où les citoyens sont tous, ben qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. Tu sais, la moyenne d'âge à Sainte-Élisabeth, c'est pas des jeunes technos de 20 ans. Là.
Non, non, je comprends.
C'est quand même une population âgée, beaucoup, puis c'est des gens qui ne maîtrisent pas non plus toutes les technologies par rapport à ça. Mais ça semble pas être une variante là au niveau de la direction générale puis du maire. Ça, ça pose un problème assez grave. Et on sait que le maire a décrété un état d'urgence local. Moi, pour l'avoir lu, je ne suis pas juriste, ça fait que je prendrai jamais ça, je dirai jamais de prendre ça pour du cash, mais quand je vais voir l'article sur lequel il se base, là, j'ai pas le numéro devant moi, le 3.02, le problème, c'est quand on va voir sur le titre du gouvernement, on sait que cet article de loi-là a été abrogé depuis, je pense, le 25 mai 2024. Et c'est en vertu de ça qu'il décrète l'état d'urgence local. Et là, les gens sont brotus, ils disent, mais pourquoi déclencher l'état d'urgence local? Moi, ce que je pense, c'est que le maire essaie tout simplement d'enfoncer dans la gorge les citoyens, qu'il ne veut plus les voir en séance. Il est tanné de voir la contestation et surtout, je crois, la pertinence des baïolais quand ils dénoncent une situation parce qu'ils n'ont pas de réponse. Alors, ils reviennent avec des questions. Puis on sait, hein, les grands ensembles ont l'air du vide. Quand le maire répond pas, ben les gens en trouvent des réponses ailleurs, puis ce qu'ils découvrent, c'est encore pire. Alors, en termes de stratégie politique, communication politique, c'est 0 sur 10. Le maire devait prendre le temps d'informer les gens, de répondre aux questions. Et ça, c'est pas ce qu'on observe depuis, mon Dieu, depuis plus de 2 ans et demi. Ce qui fait qu'il y a des gens comme moi qui n'osent plus aller se présenter en présentiel lors de ces séances-là. C'est trop fâchant.
C'est pas Jojo ce qui se passe de ce côté-là. Même chose pour Sainte-Mélanie, d'ailleurs. On a l'impression, des fois, que des petites municipalités, là, c'est des roitelets qui font un peu ce qu'ils veulent et puis qui passent des règlements ou des lois. Écoutez, pour votre information, là, Sainte-Élisabeth, c'est 1400 citoyens. C'est pas énorme. Puis 70% là-dedans, ce sont des gens qui font de l'agriculture, qui travaillent la terre. Et je pense qu'ils méritent une bonne gestion de leurs argents. Et on en saura un peu plus. La ministre Laforêt, c'est la balle est dans son camp. Il y a bien des gens qui souhaitent une mise sous tutelle. On verra. Écoutez, il y a une séance ce soir, une séance virtuelle. On tentera de se brancher et de vous informer adéquatement.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Eh bien, vous êtes nombreux du côté de la 40 Est. Ça circule quand même, pas si mal, mais une fois rendu du côté du Boulevard Centenaire et même à la hauteur de Varien, là, ça commence à ralentir. Vous allez franchir le pont Charles de Gaulle tout doucement, mais quand même, vous allez arriver de l'autre côté à un moment donné. Que voulez-vous? C'est comme ça. Du côté du pont Lagardeur, par la rue Sherbrooke et Notre-Dame, c'est ouvert, ça circule bien. Heureusement, à ce pont-là, il livre la marchandise, comme dirait l'autre. Ça s'est un peu amélioré du côté de la 25 Nord pour le pont de l'Île-Saint-Jean. C'était au ralenti au pont Payan. Maintenant, c'est à la sortie du pont que ça commence à ralentir. Et c'est vraiment là un peu congestionné à la jonction 440 et de la 25. À l'approche du pont Sophie-Masson également, c'est au ralenti, mais ça circule quand même. 640 du côté ouest, c'est là que c'est congestionné. À partir de la jonction 40-640, et par la suite, vous reprenez un peu de vitesse pour ralentir à la montée du Mai. Et du côté vers l'est, ça va relativement bien, sauf presque rendu à la 640-40, où c'est congestionné. Voilà.
Mesdames et messieurs, bonjour. Les feux de forêt font rage au Québec, alors que les foyers d'incendie se multiplient, alimentés par de nouvelles éruptions volcaniques au nord de la Tuque. Un dragon aurait également été aperçu survolant la région en crachant du feu. Plus de détails à venir.
Ben non, ça se déclenche pas comme ça. Trop souvent, c'est la négligence humaine qui est à l'origine de feux de forêt. Feux de camp mal éteints, brûlage de rebuts, mégots de cigarettes. Évitons les feux évitables. Un message de la SOPFEU avec la participation financière du gouvernement du Québec.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongée, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père. dépanneur régional et dépanneur l'escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, joliette.com.
Acheter local, c'est plus important que jamais. Pour trouver les commerces de ta région, va sur notreentourage.ca et ajoute-le à tes favoris. C'est rapide, simple, 100% local. Regarde aussi ton répertoire reçu par la Poste.
Bon lundi, François.
Bon début de semaine, Michel.
Vous allez nous parler scolaire, d'ailleurs, les cours qui vont bientôt se terminer là pour les jeunes. Alors, projet scolaire, les municipalités qui sont déchirées.
Oui, dans la MSC de Montcalm, comme ailleurs, les municipalités sont pour le moins déchirées en regard des besoins de développement de leur territoire. On rappelle que la semaine dernière, il y a une rencontre qualifiée de productive quand même qui a eu lieu avec des représentants du Centre de services scolaires des Samar au sujet des projets sur la table visant à répondre aux besoins de populations grandissantes. Et il y a aussi la loi 40, ça faut pas l'oublier, qui oblige les municipalités à céder des terrains existants ou à en acquérir au profit des centres de services scolaires. Alors, en bout de ligne, les municipalités sont perdantes. On écoute le préfet de la MRC, Patrick Massé.
Et les grandeurs de terrain, les besoins qu'ont les commissions scolaires, finalement, c'est immense. Donc, les coûts sont démesurés, qu'on va dire ça ainsi. Et ça amène une grosse lourdeur fiscale pour les citoyens de Montcalm sur l'ensemble du territoire. On en a besoin d'à peu près dans pratiquement plus de 50 à 60 de nos municipalités.
On reste dans l'éducation, compression dans les cégeps. Celui de Lanaudière, cependant, devrait mieux s'en sortir.
Effectivement, le cégep de Lanaudière devrait mieux s'en sortir que d'autres dans la foulée des nouvelles compressions qui sont imposées. On se rappellera que tout récemment, on apprenait que plus de 200 postes seront abolis un peu partout au Québec, notamment des postes de professionnels qui offrent des services directs aux étudiants. La directrice générale du cégep de Lanaudière, dis-je bien, Geneviève Perrault, nous a affirmé que la situation financière et la structure de l'établissement permettent de faire des choix moins douloureux.
On a vraiment coupé plusieurs budgets au niveau des communications, des budgets de déplacement, des budgets. On a revu certains l'ampleur de certains projets. On a un peu réorganisé. Donc, il y a des postes qui étaient vacants, puis que donc on ne dotera pas du tout. Mais somme toute, notre objectif, c'est de passer le cap. Puis d'être capable de maintenir nos équipes en place. On est quand même inquiet que le gel de recrutement de ce que ça peut donner si jamais il y a des gens qui quittent.
Le numéro 2 dans la course au leadership du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, est ministrable.
Et c'est quand même un monsieur qui est connu dans Lanaudière. Il a été président du conseil d'administration du Festival de Lanaudière. Et là, avec sa deuxième place dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, ben ça pourrait l'inciter à se porter candidat à l'élection générale d'octobre 2026. D'ailleurs, il n'écarte pas du tout cette possibilité. Au contraire, et selon notre analyste Mathieu Bélanger, il sera même un candidat ministrable.
Ça permet au parti de dire que voyez comment que le parti redevient intéressant. Certainement que ça permet à monsieur, surtout à monsieur Milliard, s'il souhaite effectivement, comme il l'annonce présentement, vouloir se présenter aux élections dans un an et demi, de pouvoir avoir justement cette opportunité-là. On voit mal comment on pourrait lui bloquer le chemin. Et éventuellement, ben ça le met évidemment en selle pour devenir ministre.
On parle d'une nouvelle politique culturelle à Repentigny.
Pour les années 2025 à 2035, d'ailleurs, les détails seront dévoilés autour de 17h lors d'un point de presse au Théâtre Alphonse Desjardins. Mais le maire Nicolas Dufour nous a déjà expliqué qu'une mise à jour était devenue essentielle.
La dernière mouture de la politique culturelle datait de 2017, donc, et on voit depuis notre arrivée qu'il y a eu une nouvelle évolution à Repentigny, un changement au niveau de la culture, au niveau démographique, de plus en plus de jeunes familles. Alors, on voulait une nouvelle politique culturelle, puis on a pris le temps de bien la travailler pendant à peu près 2 ans. On voulait une nouvelle politique culturelle qui allait répondre à la modernité, qui allait répondre aux besoins actuels, mais qui allait surtout nous permettre de se projeter dans l'avenir.
Et en terminant, un programme pour contrer les espèces envahissantes sur les plans d'eau.
Québec qui annonce que 13 projets de stations de nettoyage d'embarcations ont été financés pour le début de la saison estivale afin de contrer la propagation des espèces exotiques envahissantes aquatiques, des aides financières qui représentent un montant total de plus de 366 000 $. Dans les régions, eh bien, on trouve des stations de nettoyage à Rawdon, Saint-Zénon, Notre-Dame-le-Merci, Saint-Donat et Entrelacs. Il est possible de connaître le remplacement exact via la carte interactive Forêt ouverte. Les mesures de prévention de propagation des espèces envahissantes, comme le nettoyage des embarcations et de l'équipement de pêche, ben ça, ce sont des moyens jugés plus efficaces, moins coûteux et permettant justement le plus possible de réduire les risques afin de protéger les plans d'eau. Ça complète. D'autres nouvelles à CFNJ.net.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1-88.9.
Lanaudière PM, Première Nation.
Eh bien, cette semaine, le chef Sibi Flamand se prononce sur le dossier d'une rivière à saumon, où ce week-end, des dizaines d'Innus se sont mobilisés. En fait, c'est au club de pêche de la rivière Moisy, sur la côte nord. On parle avec le chef Sibi Flamand. Écoutez, chef, ça brasse du côté des droits ancestraux concernant le secteur de la rivière Moisy. Parlez-moi du dossier un peu.
Effectivement, au courant de la fin de semaine dernière, les Innus se sont mobilisés sur un territoire ancestral tout d'abord pour aller réclamer la reconnaissance de leurs droits sur cette partie du territoire. C'est dans un territoire où une pourvoirie s'est installée, puis depuis plusieurs décennies, les Innus ont été demandé et puis même discrédité de pas aller sur ce territoire-là parce que c'était un club privé qui est devenu une pourvoirie pour les Américains. Puis au courant de la fin de semaine, il y a eu une grosse mobilisation dont le chef, le nouveau chef de Ouachat-Maniot qui s'est présenté pour venir faire prendre les droits de son peuple.
Oui, on va rappeler aux gens que les Innus ont embarqué à bord d'une trentaine d'embarcations pour accéder au terrain du club de pêche de la rivière Moisy. Il faut dire que c'est une pourvoirie qui a peut-être les plus beaux saumons de tout le Québec. Il faut le mentionner, là.
Puis il faut dire aussi que c'est le territoire Innu, le Nitassinan, que les Innus l'appellent. Puis je pense que c'est dans leur intérêt également de pouvoir pratiquer leurs droits, leurs activités pour perpétuer leur identité culturelle sur le territoire, puis notamment dans la pêche au saumon.
Parce qu'actuellement, ils se font interdire de pêcher dans leur propre rivière.
Ils se font interdire de pêcher sur leur propre rivière, puis on sait que ceux qui fréquentent cette pourvoirie, ce sont davantage des Américains puis qui ont les moyens de pouvoir se permettre ce type d'activité privilégié pour certains, alors que c'est un droit ancestral pour les peuples autochtones.
Oui, c'est plutôt des gens fortunés qui se rendent là-bas.
Effectivement. Ils appelaient ça avant le club Adams. Aujourd'hui, c'est une pourvoirie qui a changé, non, évidemment. Puis cette action que le chef de Maliotenam, Ouachat Mak Maliotenam, a fait créer une nouvelle perspective là, dans les relations avec les pourvoiries, les aigles, puis les peuples autochtones. Puis je pense que c'est important qu'on puisse le souligner.
On a pu voir les images, les Innus qui ont enlevé le drapeau du Québec qui flottait dans les airs pour le remplacer par celui de leur communauté. Il y a plusieurs membres de la communauté qui ont observé la scène de l'autre côté de la rivière.
C'est toute la communauté qui est derrière ce mouvement, mais je pense que également, il y a un message à lancer également au gouvernement du Québec. Les droits autochtones prévaut dans les droits au Québec puis dans l'ensemble du Canada.
Est-ce qu'il y a d'autres situations comme ça au Québec, chef?
Pour le moment, il n'y a pas eu d'autres situations dans ce genre-là. Mais c'est quand même important. On se rappelle également dans les années 80 qu'il y a eu ce qu'on appelle la guerre des saumons, la guerre aux saumons avec les Mi'kmaq. Aujourd'hui, c'est un mouvement pacifique initié par le chef de Ouachat Mak Maliotenam.
Et ce qu'on voudrait, en fait, c'est que Québec rachète ce club-là, puis leur donne aux Innus.
c'est la volonté réclamée par les Inuits de la Côte-Nord.
On le sait, là, la rivière Moisy, là, c'est un joyau, là, et ça doit bénéficier aux Inuits en premier lieu. Ça leur appartient, en quelque part, historiquement.
Je pense que c'est dans l'intérêt de préserver également l'environnement que les Inuits se sont mobilisés pour pouvoir réclamer cette reconnaissance-là, puis pouvoir pratiquer les activités traditionnelles où se situe actuellement le pourvoirie en question.
Et savez-vous si ils ont eu des réponses du gouvernement?
Ils ont envoyé une lettre au premier ministre, puis aujourd'hui, au moment où on se parle, là, je pense qu'ils sont encore en attente de réponse de la part du gouvernement du Québec. Puis je pense que si on veut rétablir un rapport de confiance puis de réconciliation, il faut commencer à partager le territoire. C'est de cette manière-là que les Inuits se sont exprimés au courant de la fin de semaine.
Merci beaucoup, chef Sibi Flamand.
Merci.
On se souviendra, mesdames, messieurs, qu'il y a une époque où la majorité des clubs de pêche appartenaient à des intérêts américains. Par la suite, il y a le ministre Chevrette, ministre de notre coin, qui fait en sorte que les plans d'eau appartenaient à tous les Québécois. Alors, on avait créé les zones d'exploitation contrôlées, les ZEC, de façon à ce que les Québécois puissent en profiter, eux également, de ces beaux clubs-là qui appartenaient aux riches américains. Et celui-là de la rivière Moisy, actuellement, ben, c'est peut-être l'un des derniers clubs de pêche au saumon de la région, encore propriété d'intérêts américains. Donc, ça... On fait ça sous le couvert d'une association qui protège la faune et la flore, mais dans le conseil d'administration, ce sont des Américains. C'est l'ancien club Adams qui existe. Alors, c'est une lutte qui sera à surveiller au cours des prochaines semaines, celle des Inuits par rapport à la rivière Moisy.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Pour entretenir vos prothèses, vous devez les faire tremper à tous les jours dans une solution de trempage. Prenez bien soin de lire les instructions de la solution que vous employez et de suivre les conseils d'usage du fabricant. Dans la majeure partie du temps, si vous optez pour les pastilles, sachez que l'eau et les pastilles doivent être changées quotidiennement dans votre boîtier. Tandis que si vous utilisez une solution en poudre, vous changez l'eau et la poudre à chaque semaine. Bien sûr, avant de les faire tremper, il est bien important de les nettoyer à la brosse.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 30 juin 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Matantroulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Matantroulotte. Fromage à raclette, confit d'oignon et bacon. Un vrai délice! Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par ma tante. Casse-croûte chez Matantroulotte à Sainte-Émilie, 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
Bonjour, c'est Kim de Joliet Nissan. Profitez de l'événement La Nissan sur un Rogue 2025 en location 36 mois avec un taux aussi bas que 0,99%. Venez en concession pour plus de détails. Joliet Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Le Festival Chantevielle vous invite à célébrer sa 21e édition du 27 au 29 juin. Les passionnés de musique traditionnelle sont tous conviés à Saint-Antoine-sur-Richelieu pour vivre un week-end unique et mémorable. En spectacle, voyez entre autres Le Rêve du Diable, Le Vent du Nord, Grosse-Île, Les Mononcles, La Famille au coin, Solstice, La Fosse et bien plus. Plongez dans les traditions en participant à des ateliers d'instruments, de danse, de chansons, à des sessions de musique, à des veillées de danse et encore plus. Les billets et les passeports sont en vente à chantevielle.com. Le Festival Chantevielle, du 27 au 29 juin, c'est un rendez-vous à ne pas manquer à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
99.1,
88.9, CFNJ. À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Il est mon G8 à moi tout seul, mon G7 peut-être. Pierre Paquette, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Écoutez, ça va aller mieux. Bonjour Pierre Paquette.
Bonjour.
Oui, voilà. Écoutez, le président Trump regrette l'époque où le G7 était le G8. Il y a le dirigeant des États-Unis qui a laissé entendre qu'il aimerait ça voir Vladimir Poutine.
Ah oui, ça a fait sourcil, M. Carney. Là, il a dû se tourner la langue 7 fois dans sa bouche. Mais c'est pas la première fois que M. Trump disait ça. En plus, son intervention était truffée de fausseté. Alors, par exemple, il mentionnait M. Trudeau, que M. Trudeau avait participé à la décision d'expulser la Russie du G8 qui est devenu le G7. Obama, évidemment, il n'a pas pu s'empêcher de le critiquer. Mais le problème, c'est que Trudeau a été élu premier ministre en 2015. Donc, en 2014, lorsque la Russie a été expulsée du G8 qui est devenu le G7, c'était Stephen Harper qui était là comme premier ministre.
Alors, oui, c'est tout. Oui,
la connaissance de M. Trump de l'histoire ou de la politique canadienne est à peu près zéro.
Oui, puis c'était au moment où la Russie avait envahi la Crimée. Là,
exactement. Ça montre à quel point ces inimitiés personnelles, on sait qu'ils n'aiment pas M. Trudeau, prennent le dessus sur la vérité ou même le bon sens. Alors, effectivement, il dit il a nommé Obama et Trudeau, alors que Trudeau n'était pas là, mais il a oublié de nommer François Hollande, Angela Merkel, c'est quand même pas des dirigeants de second ordre, là, la France, l'Allemagne, qui ont participé à cette décision-là, de même que l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. Alors, je pense que c'était tout à fait compréhensible qu'après avoir envahi la Crimée, on expulse la Russie qui n'avait pas respecté le droit international, qui est...
Et en plus, Pierre, on voudrait ouvrir la porte à une adhésion de la Chine au groupe.
Donc, encore une fois, M. Trump montre son ignorance des faits, ou en fait, peut-être pas tant son ignorance que son désir d'être bien ami avec M. Poutine.
On dirait que les amis d'hier deviennent ses ennemis et l'inverse.
Exactement, mais c'est son problème. Ben, c'est pas son problème, c'est notre problème depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire que ses alliés, il les maltraite, et ses ennemis, ben il les bichonne. Alors, que ce soit la Chine, la Corée du Nord, ou l'Union soviétique, mais la Russie, il trouve que c'est des gens qui sont intéressants parce que c'est la force, c'est l'autorité. C'est un peu le modèle que lui est en train d'essayer de reproduire aux États-Unis. On a juste à voir le défilé qui a eu lieu en fin de semaine pour les 250 ans de l'armée américaine et l'anniversaire de M. Trump.
Par ailleurs, il y a Donald Trump qui a rencontré Mark Carney pendant environ une heure derrière des portes closes. Pensez-vous qu'il y aura une entente en vue?
Oh, je crois pas du tout, moi. Ben, d'ailleurs, Dominique Leblanc a tout de suite baissé les attentes à la sortie de cette rencontre-là, qui a duré 70 minutes, quand même pas rien. Bon, c'est sûr que aussi bien le Canada que les États-Unis ont intérêt à s'entendre, mais je pense qu'il n'y a pas encore la base nécessaire pour signer une entente. Mais les discussions se poursuivent. On nous a annoncé qu'il y aurait une rencontre des équipes canadiennes et américaines au cours de la semaine qui vient. Donc ça, c'est important. Mais en même temps, le problème qui se pose pour M. Carney, c'est que les industries qui subissent actuellement les droits de douane américains demandent d'avoir des ripostes canadiennes. Et à un moment donné, s'il n'y a pas d'entente, il va falloir que M. Carney, le gouvernement canadien, mette des contre-tarifs, ce qu'il a refusé jusqu'à présent, justement pour pas nuire aux négociations. Alors, il reste quelques semaines, peut-être une ou deux, avant que la pression soit tellement forte que M. Carney n'aura pas le choix que d'imposer des contre-tarifs. Et là, à ce moment-là, ça va être toute une autre game, comme on dit.
Bon, ici, avec le Canada et les États-Unis en question, mais il y a aussi les pays de l'Union européenne qui veulent enterrer, qui veulent parler de guerre tarifaire. Il y a le Japon également en anglais, en bon français, on dit dans le picture, mais dans le dossier. Ils sont plongés dans l'incertitude, ces gens-là, comme le Canada.
Ah ben oui. Alors, c'est ça, les rencontres. Bon, ce matin, le Canada M. Carney, la délégation canadienne a rencontré Trump et la délégation américaine, mais tout au long de la journée, il y aura eu des rencontres avec les Français, les Italiens, qui sont plutôt proches de M. Trump, faut bien le dire. Les Britanniques, qui eux, sont plutôt opposés à M. Trump. Donc, ça va être intéressant de voir en fin de journée qu'est-ce qui va se produire. Et on sait qu'à la fin de la journée, il y aura un souper où on va discuter des questions plus litigieuses, là, que ce soit Gaza, la guerre entre Israël et l'Iran et la question de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, c'est une grosse journée aujourd'hui, mais on n'a pas encore tous les résultats. Et demain, ça va être la rencontre avec le président indien ou le premier ministre indien et M. Zelensky va être présent aussi. Alors, c'est deux grosses journées, là, et on verra comment tout ça va se terminer. Pour le moment, bon, ça semble être positif dans le sens où M. Trump n'a pas encore quitté la rencontre comme il l'avait fait à Charlevoix, mais comme la journée est jeune, je parierais sur rien.
Surtout que l'Inde, c'est la plus grosse population mondiale, il faut en tenir compte, là.
Oui, c'est la quatrième économie du monde, puis c'est pour ça qu'il a invité je me rappelle plus si c'était un premier ministre ou un président, là, probablement un président, M. Modi, il l'a invité parce que c'était la chance qu'avait le Canada de pouvoir discuter directement avec le dirigeant indien, malgré, encore une fois, les problèmes que le Canada a avec l'Inde, parce que, comme vous le savez, l'Inde est accusée d'avoir tué un leader sikh qui est un citoyen canadien en Colombie-Britannique. Alors ça, c'est sûr que c'est une petite tâche à nos relations avec l'Inde.
Et une chose sûre, il n'y aura pas de déclaration commune.
Non, c'est sûr. Je me demande même s'il va y avoir des déclarations, point.
Merci beaucoup, Pierre Paquette.
Merci, on s'en parle mercredi.
Dire PM, éducation.
On vous parlait la semaine dernière d'une rencontre tenue entre des représentants du Centre de services scolaires des Samars et la MRC Montcalm pour faire le point sur les besoins d'espace. La population est en croissance, mais il y a plusieurs obstacles à la réalisation de projets. Et notre collègue François Morin en a parlé avec le préfet Patrick Massé.
Alors, dans la MRC Montcalm, on a vu apparaître ça la semaine dernière. Il y a eu des discussions avec les représentants du Centre des services scolaires des Samars pour des projets potentiels d'écoles dans la région. C'est une bonne nouvelle?
C'est une très bonne nouvelle, oui, effectivement. Mais avec une bonne nouvelle, des fois, il vient des enjeux. Et justement, c'était une très, très belle rencontre, très constructive, là, entre tous les élus de Montcalm, les 10 maires et mairesse et le préfet. Ils sont venus nous expliquer un peu les planifications, les besoins d'espace sur l'ensemble du territoire et qui sont éclatants et grandissants.
Bon, évidemment, on parle de bonnes nouvelles potentielles, mais j'ai en tête la fameuse loi 40 qui vous oblige les municipalités soit à acquérir ou gratuitement des terrains au centre de services scolaires. C'est pas une petite épine dans le pied, ça?
Et les grandeurs de terrain, les besoins qu'ils ont les commissions scolaires, finalement, c'est immense. Donc, les coûts sont démesurés, qu'on va dire ça ainsi, et ça amène une grosse lourdeur fiscale pour les citoyens de Montcalm sur l'ensemble du territoire. On en a besoin d'à peu près dans pratiquement plus de 50 à 60 de nos municipalités, soit des nouvelles constructions, des agrandissements, fait qu'il y a toujours besoin de terrain. Effectivement, ça amène une lourdeur là, pour les municipalités.
Est-ce qu'on peut parler de quelques-uns des projets qui sont sur la table ou on regarde les annonces là pour plus tard?
Ben, on aimerait ça, les avoir, les annonces. On en a quelques-unes, mais non officielles, officieux. J'aimerais ça en parler de chacun. Est-ce qu'ils seraient officiellement, oui, autorisés? Parce que vous le savez, dans le QI, c'est une chose, l'autorisation du PQ, c'est une chose, demain, le financement qui vient avec ça, l'autorisation de dépenses, fait beaucoup d'enjeux encore, parce qu'on les a pas toutes. On en a des besoins, on entend parler de Saint-Esprit, on entend parler de Sainte-Julienne. Tu sais, il y a quand même des bonnes nouvelles dans Montcalm aussi, là. Tu sais, ils ont fait des agrandissements à Saint-Laurentine, une nouvelle école à Saint-Laurentine, l'ouverture de l'école de secondaire, excuse-moi, avec une rénovation. Fait qu'on a quand même des bonnes nouvelles. Par contre, on a un besoin. Tu sais, on le dit souvent, la
MRC est en pleine croissance, puis elle va l'être encore pendant un bon petit bout. Il faut avoir des... Je reconnais l'ouvrage qui était fait, je reconnais les investissements qui ont fait, mais on en a besoin. Un investissement majeur pour rattraper le temps perdu, parce que nos projets n'ont pas nos, ben je dis nos, excuse-moi, mais les projets dans mon camp n'ont pas tous été acceptés au fil du temps, et là on arrive où ce que on a des besoins grandissants de plus en plus. Fait que donc ça va prendre des investissements massifs, majeurs pour l'éducation de nos jeunes. C'est nos jeunes de demain. Fait que je m'en vais pas là dans une confrontation, pas du tout. Faut s'asseoir, faut trouver des solutions, faut tous travailler ensemble, autant les municipalités que la MRC, que le gouvernement et tout le kit. Je reconnais l'ouvrage, je reconnais ce qui a été fait, mais ça prend un investissement majeur là, assez rapidement pour les prochaines années pour s'assurer que Montcalm ne soit pas mis de côté par rapport à l'éducation de nos jeunes de demain. Là.
On parle de discussions constructives, positives avec le centre de services scolaires, puis en même temps, on doit composer avec les obligations qui sont faites, imposées par le gouvernement du Québec, c'est-à-dire qu'on retarde tous les projets parce qu'il manque d'argent.
Effectivement, ça l'amène une inquiétude. Tu sais, on parle de celle de Sainte-Julienne. J'ai parlé avec la maire dernièrement. Ça l'amène une certaine inquiétude. Oui, elle était annoncée dans le PQI. Oui, il y a eu une annonce. Mais les déboursements, le manque de sous, là, ils sont en train de revoir leur façon de faire. Je pense pas qu'elle va être mise de côté. Je ne pense pas. Je pense qu'elle va être tirée un peu dans ce qu'on entend parler. On y croit fermement. Il y a un besoin urgent aussi à Sainte-Julienne. Mais oui, ça l'amène une certaine inquiétude là, auprès des décideurs dans la région.
Et dans cette veine-là, quand on va attirer des jeunes familles, ben ça prend des écoles, puis là, ben évidemment, là, on peut pas répondre aux besoins pour l'instant.
Effectivement. Là, présentement, c'est des besoins qu'on a là. On parle pas de la croissance, là. On parle pas de ça. Là, présentement, les besoins urgents qui sont là, on les voit sur le terrain, ils sont venus les exprimer, ils ont bien expliqué le choses. Il semblerait que la commission des Samars a bien fait son ouvrage au fil du temps de déposer des demandes au PQI. Par contre, on sait très bien que c'est tout le temps un enjeu. L'argent, c'est une question d'enjeu prioritaire depuis plusieurs années, mais là encore pire là, mais on a une certaine inquiétude. On a hâte que le premier coup de pelle soit donné.
Est-ce qu'on mélange inquiétude et espoir?
Vous posez des bonnes questions, M. François. C'est sûr qu'on a une certaine inquiétude, mais l'espoir, elle est là. L'espoir, elle est là que ça va arriver. Je pense que les gens, le gouvernement, le ministère de l'Éducation, notre député qui est très sensible à l'éducation dans notre région, je pense qu'ils sont tous au courant et ils travaillent extrêmement fort. Mais on doit redoubler d'ardeur. On doit se revoir. Je pense que c'est tous ensemble qu'on doit se revoir dans l'ensemble de la MRC de Montcalm, des besoins. Comment est-ce qu'on peut travailler mieux en collaboration, tous chacun ensemble, pour avoir des résultats positifs. Il y en a des résultats positifs, parce que c'est pas juste négatif. C'est faux. Nos écoles se positionnent mieux à travers le Québec. Ça va de mieux en mieux. Par contre, il reste peut-être un bon coup de bord à donner là, pour reprendre là, ce qui nous est dû dans mon camp pour l'éducation.
Il y en a qui travaillent fort, hein, du côté là, de la préfecture à la MRC Montcalm et le centre de services scolaires des Samars. Vous avez des nouvelles concernant, je sais que les étudiants de la ville de Montréal et de la rive sud de Montréal ont des classes lundi le 23. Ça soulève bien des passions du côté de la grande ville. Si jamais dans le coin c'est le cas, j'aimerais ça le savoir. Envoyez-nous un petit coucou là, puis dites-nous si vos jeunes ont de l'école le 23 juin. J'aimerais le savoir. On remercie les gens qui ont participé à notre émission du Cégep de Lanaudière, la directrice générale Geneviève Perrault. On a parlé à Marc Longchamp, citoyen de Sainte-Élisabeth. Vous pourrez voir sur notre site Internet la façon de vous brancher ce soir à la réunion du conseil là, virtuel du côté de Sainte-Élisabeth. On a parlé au chef Sibi Flamand de la communauté de Manawan. Merci beaucoup, chef. Et également à Patrick Massé il y a quelques instants. Un gros merci également à Pierre Paquette, à François Morin, à Pierre Jubinville, à Nicolas Bellemare. Ici Michel Arnois. Qui vous donne rendez-vous demain, même heure, même poste.
Chantevielle vous invite à célébrer sa 21e édition du 27 au 29 juin. Les passionnés de musique traditionnelle sont tous conviés à Saint-Antoine-sur-Richelieu pour vivre un week-end unique et mémorable. En spectacle, voyez entre autres Le Rêve du Diable, Le Vent du Nord, Grosse-Île, Les Mononcles, La Famille au coin, Solstice, La Fosse et bien plus. Plongez dans les traditions en participant à des ateliers d'instruments, de danse, de chansons, à des sessions de musique, à des veillées de danse et encore plus. Les billets et les passeports sont en vente à chantevielle.com.
le festival Chanteviel du 27 au 29 juin. C'est un rendez-vous à ne pas manquer à Saint-Antoine-sur-Richelieu.